Dans la jungle africaine, il y a des perroquets. Et tous ceux qui sont allés là-bas vous le confirmeront, les perroquets, lorsqu'ils sont tranquilles, ils parlent entre eux. Ils parlent d'ailleurs curieusement un français très très pur, sans accent. Et ils parlent de tout, d'art, de philosophie, de politique. Il y a une chose dont ils ne parlent jamais, c'est de religion. C'est très impoli de parler de religion, parce qu'on ne sait jamais qui on va offenser. J'espère n'offenser personne ce matin. Ce que j'ai préparé, je l'ai relu hier soir, et il me semble qu'il serait plus sage de le faire en deux moitiés. Alors, je vous proposerai donc, pour ceux que la suite intéresse, de revenir dans 15 jours. Ça tombe bien, c'est un dimanche. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra envisager la deuxième moitié de ce que j'ai préparé. Je vous invite à lire dans le livre des Actes, au chapitre 8. Un texte archi connu, et nous retirons de ce texte une question intéressante. Un ange du Seigneur, donc, pardon, acte 8, verset 26, nous lirons jusqu'au verset 31. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi ». Va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance !» Approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Trois versets plus loin, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage d'Ésaïe, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ce texte donc va nous servir d'introduction et je relèverai cette question que pose cet Éthiopien. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ? Et aujourd'hui, et puis dans 15 jours aussi, nous nous poserons deux questions. Qu'est-ce qui doit nous guider pour comprendre la Bible ? Est-ce que vous trouvez que c'est toujours facile, la Bible ? Non, hein ? Quand même des choses un peu difficiles. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui doit nous guider pour comprendre la Bible ? Et la deuxième question, qui est liée, pourquoi est-ce que des gens qui lisent la même Bible, aboutissent à des résultats différents. Pourquoi il y a des églises différentes ? Et pourquoi, parfois, il faut bien le dire, ces églises différentes ne s'entendent pas très bien entre elles ? Qu'est-ce qui explique le foisonnement des églises protestantes, catholiques, évangéliques, orthodoxes, maronites, mais aussi des groupes qui nous semblent plus loin, les témoins de Jéhovah, les mormons ? Sans parler des sectes, Moon, etc. Et nous verrons que ces deux questions sont liées. Parce que qu'est-ce qui différencie ces différents groupes ? Ce n'est pas la Bible, ils ont tous la même. C'est le guide dont ils se servent, que chacun suit, pour comprendre la Bible. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Comprendre, ça paraît élémentaire comme notion. C'est saisir le sens donné par quelqu'un d'autre. Toi, tu parles, et moi, je comprends ce que tu dis. Mais c'est aussi intégrer ce qu'on a compris dans sa propre vision des choses. Le sens, c'est celui qui parle qui le détermine. Celui qui écoute l'accepte ou l'accepte pas, mais enfin, il n'en est pas maître. Et actuellement, cette définition est un peu contestée. On dit, mais non, pas du tout, c'est celui qui entend qui détermine le sens. Et celui qui entend avec sa sensibilité, chaque génération va déterminer le sens qu'il mettra et ça sera la vérité pour lui, ça sera la compréhension pour lui. Et on a adapté cette façon de voir à la Bible en disant, ben voyez, la Bible, chaque génération, chaque groupe, chaque culture peut la comprendre à sa façon. Que penser de cette définition du mot comprendre ? Je crois qu'elle est vraie dans un petit domaine, elle est vraie pour l'art. C'est vrai que quand on écoute une musique, quand on regarde un tableau, quand on regarde une sculpture, surtout si c'est quelque chose d'abstrait, chacun y met un peu sa propre compréhension, son grain de sel. Mais quand il s'agit d'une parole, d'une information, cette définition n'est pas adéquate. Et la Bible, même si c'est aussi une œuvre d'art, c'est avant tout une parole qui transmet des informations sur la façon dont Dieu nous voit, sur qui est Dieu. Et cette parole a une signification objective qui s'impose et à laquelle nous devons nous soumettre. Alors j'aimerais voir avec vous, dans ces guides qui doivent nous conduire pour l'interpréter, la Bible, pour la comprendre, trois grandes réponses qui ont été données dans l'histoire de l'Église, trois grandes réponses que nous jugerons inadéquates, mauvaises. Bien qu'elle comporte à chaque fois une parcelle de vérité. Et nous essaierons de trouver ensuite une réponse correcte à notre désir de bien comprendre la Bible. Mais ça sera probablement dans 15 jours. J'espère que vous tiendrez jusque-là. La première grande réponse qui a été donnée, ça a été la réponse, alors je suis désolé, c'est un grand mot, mais ça s'appelle l'illuminisme. Je vais vous mettre le plan quand même, comme ça vous serez plus au courant de ce que je vais dire. C'est un peu haut peut-être. Voilà, merci. Alors, l'illuminisme, qu'est-ce que c'est que l'illuminisme ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Ah, remarquez, c'est peut-être marqué là. C'est l'idée que pour comprendre, il faut une révélation supplémentaire. Pour comprendre la Bible, il faut un guide supplémentaire. Et cette révélation supplémentaire va donc guider l'interprétation du texte, donner leur véritable sens. Alors comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe en général qu'une personne va recevoir la conviction que tel texte veut dire ça. Cette conviction, évidemment, elle pense que c'est le Saint-Esprit qui le lui a donné. Elle peut arriver par ses réflexions personnelles, par un songe ou de toute autre manière. Et du coup, il n'a plus besoin de raisonner, de réfléchir. Il n'a plus besoin d'étudier ce que les autres disent sur la Bible, puisque lui, il détient la vérité et il va la propager. Lui sait et les autres se trompent. Et les exemples sont très, très, très nombreux. Un certain Joseph Smith, en 1830, a vu, personne d'autre les a vus, mais lui, il les a vus, les plaques d'or écrites en égyptien réformé. Ça paraît tiré par les cheveux. Et il en a donné une traduction en anglais de ces plaques d'or. Et ce livre en anglais s'appelle Le Livre des Mormons. Et de cette histoire qui paraît vraisemblable, actuellement, il y a 13 millions de Mormons dans le monde. Est-ce que vous connaissez Sung Myung Moon? Oui? Il dit avoir reçu sa mission de la part de Jésus-Christ alors qu'il avait 16 ans dans son village natal près de Pyongyang à l'époque, enfin c'est maintenant en Corée du Nord. Et Jésus, à l'époque, lui aurait demandé de poursuivre la tâche de construire le royaume des cieux sur la terre. Il se définit comme le nouveau Messie, comme le vrai parent, le seul à pouvoir réellement comprendre et révéler tous les secrets de la Bible. Il a fondé une église en 1854 sous le nom de Association de l'Esprit-Saint pour l'unification du christianisme mondial. On voit le danger. L'expérience montre que chaque fois qu'on a ajouté un texte à la parole de Dieu, cela a abouti à déformer le message de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que se sont créées de nombreuses sectes qui sont parties un peu à droite, à gauche, dans tous les sens, avec toujours l'idée qu'elles détenaient la vérité et surtout que cette vérité n'était pas critiquable. Parce que comment peut-on critiquer quelqu'un qui a reçu directement du Saint-Esprit une révélation comme cela? Ce n'est pas possible pour un membre de ces groupes-là de remettre en cause facilement l'illumination du fondateur puisqu'il a été jugé le seul digne de recevoir de Dieu cette information. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Je vais tout mettre sur la même feuille et puis ça ne rentre pas. Voyez le schéma. Quelqu'un reçoit du Saint-Esprit, j'ai mis un gros point d'interrogation, une illumination qui vient coiffer la Bible et la rendre méconnaissable. Alors, au passage, je demande un peu pardon aux jeunes, parce qu'on a évoqué déjà cela avec le groupe de jeunes la dernière fois qu'ils m'avaient invité. Alors, il y aura un peu des répétitions, je suis désolé. Mais vous avez un grand cœur, vous me pardonnerez. Quelle est la réponse à l'illuminisme? La réponse, c'est que notre foi, c'est l'épître de Jude qui dit cela, elle définit la foi comme celle qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Jude, verset 3. C'est la foi qui a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, dit Paul aux Éphésiens. Et puis il y a l'avertissement de Jean dans l'Apocalypse, je l'atteste. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. On voit que le danger qui est là d'ajouter, et d'ajouter tellement qu'on va masquer la Bible, la réponse de la parole de Dieu, c'est bien de dire la foi, elle a été transmise. Une fois pour toutes, tout ce dont vous avez besoin est là. Alors, il y a une parcelle de vérité là-dedans. On peut remettre le... La parcelle de vérité, c'est la reconnaissance du rôle du Saint-Esprit. C'est vrai que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. C'est lui qui nous révèle la signification de chaque texte. Les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme naturel, dit 1 Corinthiens 2, verset 13. Seul l'esprit peut les lui faire connaître. Et puis Paul dit aux Éphésiens, ce texte que je trouve toujours très beau, Éphésiens 1, verset 16, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. » J'aime bien cette expression, « illuminer les yeux de votre cœur ». Mais la nécessité du Saint-Esprit n'élimine pas l'étude de la Bible. Elle la permet. Le Saint-Esprit ne nous ajoute pas des textes, ne nous ajoute pas des idées qui n'étaient pas dans le texte. Il n'ajoute rien à ce qui est écrit. Il nous permet de le comprendre. Il guérit notre regard pour ne pas fausser notre jugement. Mais l'Écriture reste le guide suprême et le moyen ultime de contrôle. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont ici, vous avez, vous, le devoir de contrôler ce qui est dit. Ce n'est pas parce que je suis sur une estrade que je détiens la vérité. L'illuminisme est donc une mauvaise solution, car il repose sur une révélation supplémentaire qui vient s'ajouter à la Bible et modifier la révélation biblique. On comprend pourquoi les groupes illuministes ont divergé. Ce n'est pas à cause de la Bible, mais c'est à cause de la révélation supplémentaire que chacun croit avoir reçue et qui est en fait non pas une révélation, mais un obscurcissement. Donc on a déjà une petite réponse à notre deuxième question. Pourquoi est-ce qu'il y a des groupes qui sont partis un peu dans tous les sens? Parce que ces groupes ne se fondaient pas sur la Bible, mais surtout sur leur illumination, même si la Bible reste, j'allais presque dire, un alibi. Alors, quelle est la deuxième piste qui a été employée à travers l'histoire pour révéler et comprendre la Bible? Cette deuxième piste, qui a été encore plus pratiquée que la première, s'appelle le magistère institutionnel. Je vois Christian qui sourit. Oui, c'est un grand mot. Qu'est-ce que c'est que le magistère institutionnel? Ben tiens, je vous pose la question. Voilà. Je n'aurais pas dû mettre les réponses sur le transparent. Il existe une institution qui a le rôle de maître, c'est ce que veut dire magistère, et qui est chargé de dire le vrai sens de la Bible. Ce terme de magistère, c'est le terme technique qui est employé par l'Église catholique, qui est une grande institution, durable dans le temps, puisqu'elle remonte, ou du moins elle pense remonter, jusqu'à la succession de Saint-Pierre. Et cette institution se dit chargée par Dieu d'avoir la mission de dire le sens sous la direction du pape, qui prend le titre de pasteur universel de tous les croyants, qui prend aussi le titre, on l'a dit tout à l'heure, de successeur de Saint-Pierre. Et cette direction du pape est relayée par la hiérarchie du clergé jusque dans chaque paroisse. Le mot magistère signifie maître, donc on l'a dit, et Jean 23 avait publié une encyclique où il parle de l'Église, vous savez que les encycliques c'est en latin, l'Église qui s'intitule Mater et Magistra, mère et maîtresse. Et le point culminant de cette construction a été atteint en 1870 avec la promulgation du dogme de l'infaillibilité du pape. C'est pas si vieux que ça, 1870. Alors souvent, On joint l'idée de tradition à l'idée du magistère. L'idée de tradition, c'est qu'il faut tenir compte de l'avis de tous les docteurs, de tous les théologiens qui se sont succédés pendant les siècles et qui ont formé la grande tradition de l'Église. Mais qui fixe la grande tradition de l'Église? Qui dit qui sont les docteurs reconnus, autorisés? C'est le magistère. Donc, finalement, on voit que c'est un bloc. Le danger est évident, du moins pour les protestants que nous sommes. Au fil des siècles, les traditions empilées ont fini par déformer, voire masquer la parole de Dieu. Tu peux mettre le petit dessin ? Merci. Donc vous voyez le schéma, le magistère qui exerce une autorité qu'il pense venir de Dieu. Cette autorité accumule, accepte ou rejette, mais accepte des traditions qui viennent entourer la Bible. Je vais vous donner quelques exemples. 1 Timothée 3:2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. On ne connaît pas beaucoup des évêques mariés dans l'Église catholique, même à une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, ça je veux. Ce sont sûrement des gens très bien. D'où est venue l'obligation du célibat des prêtres? Pas de la Bible. D'une tradition extérieure qui a été greffé sur la Bible. Marc 6, verset 3. Les gens s'interrogent, les gens de Nazareth s'interrogent sur ce Jésus. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon et ses sœurs? Ne sont-elles pas parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute, dit le texte. Marie est une femme admirable, une femme dont nous admirons la foi. Nous aussi, nous la disons bienheureuse. Nous aussi, nous admirons cette femme qui a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et en disant ça, elle acceptait d'être lapidée. Nous croyons, puisque les évangiles nous le disent, qu'elle était vierge lors de la naissance de Jésus. Mais aucun texte ne nous dit qu'elle est restée vierge. Au contraire, selon Marc, elle a eu au moins 7 enfants. Donc 6 après Jésus. Pourquoi avoir rajouté le dogme de la virginité perpétuelle de Marie? Là aussi, c'est une tradition extérieure à la Bible qui est venue se greffer dessus. Alors on peut dire, c'est pas très important, la virginité de Marie, qu'elle l'était ou pas, le célibat des prêtres, c'est pas très important, mais ça vient se rajouter et ça vient masquer quelque chose qui est la pureté de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que quand Jésus discute avec les pharisiens, il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est les textes sacrés. Pour eux, les textes qui étaient leur base, c'est-à-dire ce qui pour nous est l'Ancien Testament, il n'y a aucune contestation. Ils sont bien d'accord que la loi de Moïse, que les prophètes, c'est une, pour eux la base de leur foi. Pourquoi ils ne sont pas d'accord entre eux? Pourquoi est-ce que Jésus et les pharisiens ne se rejoignent pas? À cause du poids de la tradition. C'est ce que Jésus leur dit, Marc 15, verset 6, il dit aux pharisiens, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu pour agir selon votre tradition. Et la réforme a été d'abord une prise de conscience que l'enseignement de l'Église s'éloignait de la Bible. Je vous rappelle qu'au moment de la réforme, l'enseignement de l'Église, c'était le commerce des indulgences. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une vie un peu dissolue, que si vous arriviez à vous arranger avec le prêtre pour racheter quelques-unes de vos frasques, vous pouviez le faire en rachetant des indulgences. C'est une des raisons qui explique pourquoi tant de gens sont partis aux croisades. Le fait de participer aux croisades valait ce qu'on appelait indulgence plénière. Vous pouviez faire toutes les cruautés, toutes les atrocités que vous voulez, vous aviez une indulgence plénière parce que vous participiez aux croisades. Et quand les réformateurs, Luther a commencé à traduire l'Épître aux Romains, et puis les autres écrits de la Bible, il s'est dit, mais ça ne va pas ensemble. C'est pas ce que moi j'ai appris qui est là-dedans. Mais à qui il faut donner la préférence? Alors la parcelle de vérité. Tu remets le... Je te sollicite beaucoup. C'est bien, il y en a moins une qui ne dort pas. La parcelle de vérité, c'est que Dieu a donné à son Église des docteurs, des enseignants, pour expliquer la Bible aux autres. Et ceci, depuis que l'Église est née, nous pouvons nous appuyer sur leurs écrits présents ou passés. C'est ce que Paul explique aux Éphésiens. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais le dernier mot doit rester à la Bible. Et nous devons rester vigilants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur ce que nous entendons, même ici, ou ce que nous lisons. Luther disait, tout croyant est un pape quand il a sa Bible ouverte devant lui. Cette solution ne nous semble donc pas satisfaisante non plus. Et elle explique aussi des divergences entre les églises. Parce que je vous ai parlé évidemment du magistère qui nous touche le plus près dans notre pays, qui est celui du catholicisme. Mais il y a le même magistère chez les orthodoxes ou chez encore d'autres fractions des églises. Et évidemment, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc cela nous explique les divergences qui ne viennent pas de la Bible, mais de ce qu'on met autour. Alors la prochaine fois, tu peux descendre jusqu'en bas. La prochaine fois, nous verrons une autre façon de mal comprendre la Bible, qui est ce que j'ai appelé là la supériorité critique, qui dit que la raison humaine est plus forte que la Bible et peut se permettre de tailler dedans en disant « ouais, non, ça, je suis d'accord, ça, je... Oh, non, ça, sûrement pas. Ouh là 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 là, la Trinité, mais c'est une absurdité, on va enlever ça. L'incarnation, mais enfin, n'en pensons pas. La résurrection, mais c'est pas possible. Enfin, bon, voilà, on peut tailler, et chacun taille à sa façon, évidemment. Et puis nous verrons ce qui me semble être... Je dis ça parce que peut-être qu'il y en a qui ne seront pas là dans 15 jours, on ne sait jamais. Hein. Donc que vous ayez au moins une partie de la conclusion. Que si nous voulons rester fidèles à la Bible, le guide d'interprétation ne peut être que la Bible elle-même. L'Écriture interprète d'elle-même. Et c'est ce qui se passe dans notre lecture par laquelle nous avons commencé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre des Actes ? Il y a ce ministre éthiopien qui lit Ésaïe, et la Bible nous raconte comment Philippe est venu lui dire « Eh bien, ce que tu lis dans Ésaïe, que tu ne comprends pas, il a été réalisé en Jésus-Christ. » La Bible se cite elle-même, et ainsi elle nous apprend à l'interpréter. Si nous n'avions pas ce texte, et puis d'autres, ce texte de Ésaïe est abondamment cité dans le Nouveau Testament, mais évidemment, il n'est pas marqué dans Ésaïe que c'est Jésus-Christ qui va réaliser tout cela. C'est la Bible, c'est le Nouveau Testament qui nous dit que c'est Jésus-Christ qui a réalisé ce texte d'Ésaïe 53. Le mot, nous le détaillerons, le mot important, c'est l'analogie de la foi. Comprendre par l'ensemble des textes. Et j'aimerais conclure avec cet exemple qui nous est rapporté en Actes 17, verset 11. Cet exemple des chrétiens de Bérée. Bérée, c'est une ville qui était sur le trajet de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va s'arrêter dans cette ville et il va parler aux gens qui sont là. Et ce petit verset nous dit « Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. » C'était pourtant Paul qui était devant eux, ce n'était pas le premier venu. Je pense qu'il devait avoir une certaine éloquence. Et bien voilà des gens qui disaient « Oui, c'est bien ce qu'il dit, mais on va vérifier. » Je vous encourage à faire de même.